Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourois. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le chercheur d'or, de Jean-Marie Gustave Le Clézio. L'histoire commence en 1892 dans l'enfoncement du Boucan, dans l'île Maurice. Alexis, alors 8 ans, et vit heureux avec sa sœur aînée Laure, à jouer dans la forêt et dans l'arbre du bien et du mal, et à se promener avec son ami Denis, un jeune noir descendant d'esclaves mauriciens, qui lui fait découvrir les secrets de la nature et l'initie à son premier voyage en mer. La famille n'est pas riche. Le père est aux prises avec des soucis d'argent. Suite à un cyclone qui ravage une grande partie de l'île, la famille, ruinée, doit partir pour Forest Hide. Là, le jeune Alexis est placé dans un internat et se prend de passion pour les histoires de pirates. À la mort de son père, il découvre dans les papiers de celui-ci l'existence potentielle d'un trésor, le trésor du corsaire, caché dans l'anse aux Anglais sur l'île Rodrigue. À l'annonce du début de la Première Guerre mondiale, en 1914, Alexis s'engage volontairement dans l'armée britannique. Il part pour l'Europe et sera des batailles d'Ypres durant l'hiver 1915 et de la Somme à l'automne 1916. Rescapé miraculeusement des combats alors que tous ses compagnons d'armes tombent, il est finalement rapatrié après avoir attrapé le typhus. Il retourne voir Laure à Forest Hide, où il est reconnu comme héros pendant la guerre à cause d'exploits imaginaires. Sa mère est devenue presque aveugle et ne cesse de penser à ce qui fut son passé heureux dans la maison du Boucan. Après quelques mois passés à Maurice, où Alexis travaille à la surveillance des paysans dans les champs de canne à sucre, il décide de repartir en 1919 vers l'île Rodrigue pour reprendre sa recherche du trésor. À la mort de sa mère, Laure entre dans les ordres et Alexis retourne sur les lieux de son enfance avec Uma, une amie d'enfance qui travaille désormais dans les plantations de canne sur l'île Maurice. Lors d'une pluie d'étoiles filantes, Uma quitte définitivement Alexis et part rejoindre son jeune frère au camp de réfugiés gardé par l'armée anglaise. Elle est déportée vers Rodrigue, son île d'origine. Alexis brûle ses derniers papiers du trésor pour être libre. Jean-Marie Gustave Le Clézio est né le 13 avril 1940 à Nice. Le nom de famille est d'origine bretonne et rurale. Clézio, littéralement talus en bord de chemin, avec ou sans fossé. Ses ancêtres ont émigré à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Il a connu une enfance marquée par la guerre et le voyage. Il écrit ses premiers récits à l'âge de 7 ans, dans la cabine du bateau qui le conduit avec sa mère au Nigeria, où il va retrouver son père, qui est resté pendant la Seconde Guerre mondiale. L'écriture et le voyage resteront dès lors indissociables dans son œuvre. Il effectue ses études au lycée Masséna, puis au collège littéraire universitaire à Nice, à Aix-en-Provence, puis à Londres et à Bristol. En 1964, il rédige un mémoire pour l'obtention du diplôme d'études supérieures sur le thème « La solitude dans l'œuvre d'Henri Michaux ». Après ses études littéraires, Le Clézio voyage et connaît de nombreux pays. Il fait son service militaire à Bangkok à partir de 1966. Durant les années 1966-1968, il publie trois livres, Le Déluge, L'Extase matérielle et Terra Amata. Puis, au début des années 1970, il est envoyé au Mexique. Il séjourne ensuite au Panama, où il partagera la vie des Amberas et des Huananas, indiens du Darién panaméen. Ces différentes expériences à l'étranger nourrissent l'œuvre de Le Clézio et nous en apprennent un peu plus sur cet homme du secret. Il connaît très vite le succès avec son premier roman publié, Le procès-verbal, en 1963, prix Renaudot, récit esthétiquement proche de L'étranger d'Albert Camus. Jusqu'au milieu des années 1970, son œuvre littéraire porte la marque des recherches formelles du nouveau roman. Par la suite, influencé par ses origines familiales, par ses incessants voyages et pour son goût marqué pour les cultures amérindiennes, Le Clésio publie des romans qui font une large part à l'onirisme et au mythe, Désert et Le chercheur d'or, ainsi que des livres à dominante plus personnelle, autobiographique ou familial, comme L'Africain. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages de fiction, romans, contes, nouvelles et essais. Après son premier mariage en 1961 avec Rosalie Picmal, avec qui il a une fille, Patricia, il se marie en 1975 avec Rémia Jean, marocaine d'ascendance sahraoui. Le prix Nobel de littérature lui est décerné en 2008 en tant qu'écrivain de nouveau départ, de l'aventure poétique et de l'extase sensuelle, explorateur d'une humanité au-delà et au-dessous de la civilisation régnante. Son œuvre est traduite en 36 langues. De plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer, mêlée au vent dans les aiguilles des Philaos, au vent qui ne cesse pas, même lorsque s'éloigne des rivages et qu'on s'avance à travers les champs de canne, c'est ce bruit qui a bercé mon enfance. Je l'entends maintenant, au plus profond de moi, je l'emporte partout où je vais. Le bruit lent, inlassable, des vagues qui se brisent au loin sur la barrière de corail et qui viennent mourir sur le sable de la rivière noire, pas un jour sans que j'aille à la mer, pas une nuit sans que je m'éveille, le dos mouillé de sueur, assis dans mon lit de camp, écartant la moustiquaire et cherchant à percevoir la marée, inquiet, plein d'un désir que je ne comprends pas. Je pense à elle comme à une personne humaine, et dans l'obscurité, tous mes sens sont en éveil pour mieux l'entendre arriver, pour mieux la recevoir. Les vagues géantes bondissent par-dessus les récifs, s'écroulent dans le lagon, et le bruit fait vibrer la terre et l'air comme une chaudière. Je l'entends. Elle bouge. Elle respire. Quand la lune est pleine, je me glisse hors du lit sans faire de bruit, prenant garde à ne pas faire craquer le plancher vermoulu. Pourtant, je sais que l'or ne dort pas, je sais qu'elle a les yeux ouverts dans le noir et qu'elle retient son souffle. J'escalade le rebord de la fenêtre et je pousse les volets de bois. Je suis dehors, dans la nuit. La lumière blanche de la lune éclaire le jardin. Je vois briller les arbres dont le faîte bruisse dans le vent. Je devine les massifs sombres des rhododendrons, des hibiscus. Le cœur battant, je marche sur l'allée qui va vers les collines, là où commencent les friches. Tout près du mur écroulé, il y a le grand arbre Chalta, celui que l'or appelle l'arbre du bien et du mal, et je grimpe sur les maîtresses branches pour voir la mer par-dessus les arbres et les étendues de canne. La lune roule entre les nuages, jette des éclats de lumière. Alors peut-être que tout d'un coup je l'aperçois par-dessus les feuillages, à la gauche de la tourelle du tamarin, grande plaque sombre où brille la tache qui scintille. Est-ce que je la vois vraiment? Est-ce que je l'entends? La mer est à l'intérieur de ma tête, et c'est en fermant les yeux que je la vois et l'entends le mieux, que je perçois chaque grondement des vagues divisées par les récifs et puis s'unissant pour déferler sur le rivage. Je reste longtemps, accroché aux branches de l'arbre Chalta, jusqu'à ce que mes bras s'engourdissent, le vent de la mer passe sur les arbres et sur les champs de canne, fait briller les feuilles sous la lune. Quelquefois, je reste là jusqu'à l'aube, à écouter, à rêver. À l'autre bout du jardin, la grande maison est obscure, fermée, pareille à une épave. Le vent fait battre les bardeaux disloqués, fait craquer la charpente, Cela aussi, c'est le bruit de la mer, et les craquements du tronc de l'arbre, les gémissements des aiguilles de Philaos. J'ai peur, tout seul sur l'arbre, et pourtant, je ne veux pas retourner dans la chambre. Je résiste au froid du vent, à la fatigue qui fait peser ma tête. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.